Bonjour à tous!
Excusez. OK, wow. Bon, ben...
Mais comme c'est toujours toi qui le fais, Jim,
t'as bien raison. T'as bien raison. Merci, Mélina. Donc, vous avez entendu le bonjour de Mélina. Mélina Lopez-Nadeau, François Genet...
Oui, bonjour. Moi, j'ai moins d'impact quand je rentre. C'est ça qui arrive.
Et moi-même, Jim Boulay. On est tous avec vous, comme chaque semaine, pour une émission de Cinébrunch haute en couleurs, n'est-ce pas? Et, ben oui, cette semaine, en fait, trois films en critique. On aura l'occasion d'entendre la critique du film Douleur et gloire, dernier film de...
Almodovar, que je suis allée voir pour vous.
Et puis, François, tu as été voir Le Dain.
Oui, tout à fait.
Et non pas Le Bain.
Non, ça c'est un autre film qui date.
Alors, on va entendre tout ça un peu plus tard dans l'émission. De mon
magique.
Côté, j'ai vu Terminator Sombre Destin. On verra si le destin de Terminator sera sombre ou non. Un peu plus tard dans l'émission. Sinon, quelques nouvelles pour vous aujourd'hui. Tiens, Mélina.
Oui, donc en fait, moi je vous parle aujourd'hui de Lady Gaga. Donc, qu'on a vu l'année passée dans le film A Star is Born avec Bradley Cooper. Ça avait donné lieu à plein de rumeurs. Et là, je suis pas là aujourd'hui pour vous annoncer s'ils sont en couple ou pas, parce qu'on ne sait toujours pas, mais plutôt pour vous dire qu'elle a décroché un autre rôle au cinéma. Donc, elle va jouer dans le prochain film de Ridley Scott. Donc, Louis, si tu nous entends, je sais que tu serais très, très, très content parce qu'il parlait tout le temps de Ridley Scott. C'était comme une fascination.
Oui.
Fait que c'est ça. Lady Gaga va se glisser dans la peau de Patrizia Reggiani, accusée et condamnée pour avoir organisé l'assassinat de son ancien mari, Maurizio Gucci, petit-fils de... Guccio Gucci, fondateur de la marque Gucci. Gucci. On voit que vous connaissez vos marques de mode.
Oui, on est très, très à la mode.
Oui, tout à fait. Ouais, mais les gens ne peuvent pas le voir parce que c'est à la radio.
C'est
mais,
ça.
Excuse-moi, je ne voyais pas François. Tu étais derrière ton collier de Dolce Gabbana.
Oui, tout à fait.
Bon.
Fait que, c'est ça. Ça. J'espère qu'elle va nous donner une bonne performance, parce que je veux dire, sa performance dans A Star Is Born était bonne, mais elle jouait quand même un rôle de chanteuse, elle chantait beaucoup.
Ouais, c'est clair.
Là, on va la voir dans autre chose, fait que je pense que ça peut être assez intéressant. Puis la mafia, c'est toujours... La mafia, pourquoi je peux dire la mafia? La mode, c'est toujours intéressant à regarder.
Ah oui, absolument, c'est... Hein? Oui, plein de gens partagent ton avis.
Tout à fait.
Bon, mais merci.
Écoute, on tripping d'impatience.
On se peut plus. Ça va être à mon tour parce qu'on garde François pour la fin, comme dit l'expression.
Oui.
Et moi, je vais vous parler, en fait, je vais vous donner quelques nouvelles de Luc Besson. Hein, vous aimez bien quand je vous en parle. Je sais, je reçois plein de commentaires positifs. sans toi, Jim, on ne saurait jamais ce qui se passe avec Luc Besson dans sa cour arrière et tout et tout.
C'est
alors,
vrai.
Luc Besson, entre deux accusations d'harcèlement ou d'agression sexuelle, est toujours complètement enseveli dans la problématique de la saga des chevreuils sur ces terres normandes.
Oui.
Donc, le cinéaste qui refusait, rappelons-nous, d'autoriser la chasse aux cerfs sur ces terres.
C'est vrai.
Et la Fédération des chasseurs de l'Orne qui réclamait 130 000 euros à Luc Besson. Le procès a eu lieu lundi, mais Besson ne s'est pas présenté. Je pense que ce n'était peut-être pas une nécessité non plus. Le porte-parole, en fait, de la Fédération a dit... les mots suivants. Le débat ici, ce n'est pas de chasser, c'est payer. Il ne chasse pas, dont acte. On est en démocratie, c'est son droit, mais il doit respecter le plan de chasse. Soit il assume, soit il respecte le plan de chasse, autrement dit, ou soit il l'assume financièrement. Syntaxe particulière, là. Voilà. Et sinon, la réponse de l'avocat de Besson, le lien entre les dégâts causés par les cerfs et Luc Besson n'est pas démontré, autrement dit. Il a martelé le conseil du réalisateur. Le bois du cinéaste représente 1% de la forêt de Saint-Évroult. c'est pas un espace vital pour les cerfs. Autrement dit que même s'il y avait des centaines de cerfs sur son bout de terrain par rapport à la zone, ben c'est pas rien de dramatique. Ouais. Mais évidemment, les agriculteurs du coin aiment pas trop ça parce que les cerfs...
ils mangent leurs pommes ou autres petits fruits et choses comme ça. Ils
font du dommage, semble-t-il. Donc, on verra ce qui se passera. On va savoir le 26 décembre, en fait, jour du Boxing Day, si ça passe ou ça casse pour Luc Besson. Donc, plein de choses à venir.
Plein de rebondissements encore dans ce feuilleton. Ben
oui. C'est fascinant.
Qui est la vie de Luc Besson.
Oui, exactement. Sinon, une autre nouvelle, pour moi, très court. Ghostbusters 3. Hein?
Ouais,
va peut-être exister parce que le magazine We've Got Discovered a annoncé que le tournage était terminé. On a même publié une photo du vieux véhicule là, de j'ai oublié le nom, ça a un nom là, oui, cette affaire-là, mais oui, la vieille quelque chose là. Et on sait d'ailleurs que les acteurs Bill Murray, Dan Aykroyd et Ernie Hudson vont être au casting du Ghostbusters 3. Supposément, le film sortirait en juillet prochain, donc quand même bientôt.
Voyons.
Alors, ils en ont pas fait un Ghostbusters.
Ils en ont fait un avec des filles.
Avec des filles,
oui. C'est une mode à un moment donné de refaire les films avec des filles. Mais là, ça serait un vrai 3. Cela dit, je dis pas que ces acteurs-là vont être dans les rôles principaux. De ce que j'ai
c'est
cru comprendre,
un clin d'œil.
Ça va être des gens plus jeunes qui vont avoir les rôles principaux, mais on va les voir.
Ouais, c'est ça, des choses comme ça.
Ils vont jouer comme quelqu'un dans une bibliothèque qui lit un livre tranquille dans le fond. Là.
Vous êtes d'un cynisme incroyable.
Non, mais
ils vont plutôt faire appel aux vieux pour
donner. Tenir. Non, mais des fois, c'est juste des petits clins d'œil. Des fois, ils passent là, puis ils voient « Ah, je jouais dans l'ancien film. » Puis des fois, juste ça, c'est un clin d'œil assez fort pour que les fans de la série fassent comme « Ah, c'est cool, ils nous ont pas oublié. »
Peut-être, t'sais. Mais j'espère qu'ils vont avoir un rôle un peu plus important quand même. Ouais. J'aime bien Bill Murray, d'ailleurs. J'ai
tout
hâte
à fait.
De le revoir. Donc, on va voir si tout ça s'avère vrai. Ben, ça va
sinon,
sortir
tu
en
peux
été.
Toujours googler Bill Murray.
Oui.
Et le regarder.
Oui.
Ça arrive. Tu vas dans Google Images.
Oui,
puis,
tout à fait.
Vous êtes divertissant. c'est le moment où François nous parle de ses nouvelles.
Oui, ben écoute, Jim, j'ai décidé de tu sais, j'ai souvent un style de nouvelles qui parle des films que je vais critiquer.
Oui, très égocentrique
oui,
d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Ça,
vrai,
je voulais t'en parler.
Et j'ai décidé sur lui-même.
Ouais. Et j'ai décidé de cette fois-ci de faire un mix entre mon style de nouvelles et ton style de nouvelles,
ah,
Jim.
Mon style de nouvelles.
Oui, tout à fait. Toi,
c'est quoi mon style de nouvelles, de Luc Besson?
Ben en fait, c'est ça. T'as souvent des réalisateurs accusés d'agression sexuelle. Alors je me suis dit, mais mon doux, j'ai tombé sur une nouvelle qui faisait un mix de tout ça.
Bon.
En fait, c'est Adèle Hanel qui joue dans Le Dain.
Ah,
que
bon,
je suis
d'accord.
Allé voir,
oui, oui.
qui a, dans le fond, dit qu'elle avait été accusée, ben, en fait, elle a fait des accusations au réalisateur Christophe Ruggia qui l'aurait...
le réalisateur du Dain?
Non.
Ah, OK.
Non, c'est ça, c'est un autre réalisateur.
Un autre histoire, OK.
Tout à fait. Faut rester à l'écoute quand même. Oui, c'est difficile. Donc, pour dire comme quoi qu'elle aurait subi, dans le fond, de l'harcèlement sexuel par le réalisateur dans le temps qu'elle était plus jeune, elle avait peut-être 15 ans à peu près, dans le temps qu'elle était mineure. Donc, c'est assez choquant. Donc, évidemment, encore, on pense que le MeToo, c'est pas encore fini, en fait, ce
mouvement-là.
Ah non,
ça continue.
Puis je veux pas être pessimiste, mais il y a probablement encore des situations
encore
comme
plein
si
d'histoires comme ça
sur
qui,
les plateaux de tournage,
oui, tout à fait, et d'autres qui sont pas encore sorties parce que ça, c'est encore des vieilles
en
histoires, mais il
ouais.
y en a peut-être encore d'autres qui sont en train de se faire puis qu'on le sait pas.
Et peux-tu, gang, faire des films en respectant tout le monde, en faisant, en s'amusant puis en arrêtant de vouloir, ça serait bien.
Ça serait vraiment très bien.
Je lance ça pour 2020 là.
Ben
oui.
Écoute,
ce serait une bonne chose.
Hein? Faisons
des films dans le respect l'un de l'autre, ce serait bien. Non, moi j'approuve.
Évidemment, bon, le réalisateur a démenti, évidemment, tout ça. C'est rare qu'il dise oui,
oui, oui.
Hein, à ça. Bon, mais la Société des réalisateurs a radié Christophe Ruggia directement. Et évidemment, bon, là, évidemment, Adèle Hanel, qui est évidemment choquée, qui démente ce qu'elle a dit. Elle dit oui, il dit qu'il m'a découvert parce que. C'est le réalisateur qui,
ouais.
qui l'a mis sur la map, entre guillemets, mais elle a dit « il m'a plus détruit que découvert au final parce que, à cause des agressions qu'il m'a faites. »
Est-ce qu'il y a eu des accusations formelles? Est-ce qu'il y a eu...
Elle est juste sortie dans les médias, je crois. C'est une enquête publique qui a été mise... publique. Dans le fond. Une enquête publique qui a été mise publique. Mmh. Bon. Fait que je sais pas si
c'est adressé aux médias autrement.
Oui, exactement, bon. C'est ça.
Mais après ouais, ça, je sais pas si c'est toujours un problème.
S'il va y avoir des accusations formelles, effectivement. Mais il y a une très grande. Évidemment, dans le domaine, Marion Cotillard est sortie aussi pour être derrière Adèle, justement.
Oui.
Donc, c'est bien. Les actrices du milieu se tiennent. Et c'est bien, dans le fond. La communauté se tient. Et c'est le fun de voir ça dans ces moments difficiles. Sinon, autre nouvelle.
Ben oui.
Martin Scorsese, qui décide tout le temps de faire parler de lui, en octobre, il avait dit, dans le fond, que les films de Marvel, c'était pas vraiment
de
l'art.
Ça,
On en avait parlé un petit peu.
Et là, il est revenu à la charge...
Donner au teint.
Oui, il est revenu à la charge en disant qu'il y avait beaucoup d'éléments caractéristiques du cinéma qui sont présents dans les films Marvel, mais il n'y a plus la révélation, le mystère, le vrai danger émotionnel, il n'y a plus de prise de risque dans ces films-là. C'est des films qui sont concoctés avec une recette toute faite, qu'on sait clairement qu'il va marcher et qui sont servis comme ça.
Comme pas mal toutes les blockbusters américains depuis 15 ans.
Oui, tout à fait. Il a dit, si on donne une seule chose aux gens, c'est évident qu'ils vont en vouloir davantage. Il critique, dans le fond, l'uniformisation de l'offre cinématographique au détriment de la diversité. Et ça, je trouve que c'est une question assez intéressante parce que, les meilleurs films qui ont fait le plus de recettes, la majorité, c'est des films de Marvel. On en trouve beaucoup dans les tops de ceux des box-office. Donc, c'est de se dire, est-ce que ça reste des bons films, même si c'est du...
Divertissement.
Sacré Martin, moi, je pensais comme lui, en fait, jusqu'à temps que je commence vraiment à embarquer. J'en écoutais, je veux dire, j'en avais vu un ou deux comme ça. Mais je pense que ce qui se passe avec Marvel, pourquoi ça va chercher autant les gens, du moins, c'est mon analyse pour le moment, j'ai pas terminé d'écouter l'univers cinématographique en entier.
Oui, c'est vrai.
Mais il y a beaucoup de références à lui-même dans l'univers, aux autres films.
Ouais.
Donc, quand tu viens, mettons, comme moi, puis que t'écoutes juste un film, comme je faisais à l'époque, je vais aller voir tel film, tel Avengers,
tu apprécies moins,
puis tu comprends pas à quel point ça peut être recherché. Alors que quand tu vas écouter... Puis je trouve ça aussi quand même gros de dire... Puis là, j'ai l'air de la plus grande défenseur des films de Marvel, mais c'est vraiment pas le cas. Mais je trouve ça gros de dire tous les films de Marvel sont de telle façon, parce que moi, pour avoir commencé à les écouter, remarque qu'il y a tellement de différences entre les films, entre les séries. Il y en a qui sont super dark.
Sur 20 ans, là.
Oui! Puis il y en a qui sont super légers, que ça va être vraiment du divertissement. Il y en a, on va vraiment dans différents types différents, dans différents styles différents. Puis je pense que moi, personnellement, du moins, je vais y chercher quelque chose. Oui, c'est sûr qu'on est peut-être un peu dans le divertissement, mais il y a un côté aussi humain qui est intéressant, parce que tout le fait que Tony Stark, il fabrique des armes, on voit ça dans le premier Iron Man, puis que là, il décide, il se rend compte de ce que ces armes peuvent faire.
Il y a une évolution au fil des films, de la série.
Oui, puis on aborde quand même des thèmes. On a des personnages quand même qui évoluent. C'est sûr que si tu écoutes un ou deux films, tu le vois peut-être pas autant, mais en suivant l'image, je sais pas.
Ben c'est sûr que, tu sais, il dit aussi que c'est souvent les mêmes personnages, les mêmes films, le même univers, en fait, tu sais, qui est souvent réutilisé, qui sont calibrés, testés, modifiés, remaniés jusqu'à ce que ça soit parfait, dans le fond. Puis c'est tout le temps les mêmes personnages qui reviennent. Tu sais, mais en même temps, je veux dire, je pense que quand les comics sont sortis, il y a aussi un petit peu de ça, tu sais, ah, le roman, comparativement aux comics, c'est la BD, on a vu tout le temps un petit peu, en tout cas, moi, je pense qu'on a vu tout le temps une simplicité un petit peu dans ces films-là, dans ce médium-là qui est la BD, par exemple. Tu sais, souvent, on rabaisse un peu la bande dessinée, tu sais, les comics, en disant, ben c'est des images avec du texte comparativement à une brique de 800 pages.
Ouais, quelque chose d'un peu enfantin, peut-être, un peu facile, peut-être.
Oui, peut-être, mais tu sais, ça se demandait, est-ce que un fast-food, mettons que tu dis du McDo, un fast-food, est-ce que c'est bon? Si c'est bon, t'aimes ça, même si c'est du fast-food, puis tu sais que c'est pas...
Je pense que c'est l'œuf ou la poule. Là, est-ce que les gens en mangent parce que c'est bon?
Ou est-ce qu'ils en mangent parce que c'est rapide, ils peuvent juste passer à aller en chercher.
Oui, c'est ça, puis c'est populaire, puis parce que c'est les films dont on parle le plus. Je trouve que c'est une réflexion intéressante quand même à y avoir. Je pense pas que c'est aussi intense que... Dans le sens où je pense qu'il y a une qualité quand même dans ces films-là qui est indéniable.
Mais moi, je trouve que les films Marvel, dans les dernières années, sont de plus grande qualité que la plupart des gros blockbusters d'il y a 15, 20, 30 ans. À mon sens, personnellement, il y a une meilleure qualité de scénario, à mon goût, à moi. Oui, effectivement, ça suit des recettes, ça suit le Hero's Journey, ça suit... C'est certain, on est tout le temps dans le trait hollywoodien. Mm-hmm. Donc, on utilise des temps précis pour des moments précis au niveau de l'intrigue, des choses comme ça. Mais après, tous les films font un peu ça. Tous les gros films font un peu ça.
Exactement, c'est ça.
Puis honnêtement, depuis qu'Aristote a écrit la poétique, il n'y a pas vraiment eu de changement majeur dans la façon d'écrire des histoires. Il y en a eu, mais on revient quand même au même principe. Eux ont trouvé une recette qui marche plutôt bien. Si la recette marche bien, c'est peut-être parce que c'est une recette qui vient plaire facilement aux gens qui l'écoutent. Donc, ça rend les films plus intéressants à écouter.
Ça va chercher un public qui est assez varié, dans le sens que dans ces films-là...
Oui, oui, les salles de cinéma, on voit tout le monde.
Ouais. Absolument.
Tout le monde là-dedans, puis ça rejoint tout le monde. Puis au final, c'est ça aussi, on veut rejoindre du monde dans le cinéma. On veut rejoindre le plus de personnes possible. Puis, tu sais, je pense que ce genre de film-là aussi doit exister. Puis, il y a eu des films Marvel qui ont été faites botcher, entre guillemets, tu sais. Puis les gens l'ont dit, puis il y a eu des moins bons box-office. Puis je veux dire, c'est pas parce qu'il y a les temps Marvel dessus que nécessairement ça va être bon box-office, puis que les gens vont sortir en disant c'est un bon film, tu sais. Y en a que les gens disent c'est clairement pas un bon film, un si bon film que ça, puis pourtant il y a les temps Marvel dessus.
Oui, puis moi j'ai vu des gens se disputer là, après un film Marvel en sortant, un qui trouvait que c'est le meilleur film qui était sorti depuis longtemps, puis l'autre qui était complètement frustré contre le film, puis ça crée des différents débats. Est-ce que le mandat de ces films-là, c'est de faire réfléchir les gens sur des choses profondes de leur vie? Est-ce que c'est de réinventer le cinéma?
Je crois que le mandat est simplement de divertir dans
c'est
ce
de divertir, c'est d'amener du monde en salle, puis au bout du compte, c'est de l'argent qui rentre dans les poches de compagnies qui vont éventuellement produire des films moins rentables, mais au bout du compte, ils vont avoir fait assez d'argent avec les films plus rentables pour pouvoir se payer des films moins rentables.
Mais tu sais, est-ce que c'est nécessairement mauvais que quelque chose soit populaire?
T'sais, ça, c'est toute une question.
C'est ça aussi.
Est-ce que c'est pas un peu québécois aussi, cette espèce de refus de la culture populaire?
Même si c'est Scorsese qui l'amène, mais...
mais quand même. Non, mais sans blague, est-ce qu'on a un peu un regard là-dessus aussi? On a tendance à critiquer les gens qui ont du succès.
Oui, et dès que ça devient trop populaire, on dit, ben non, mais moi, j'aime ça, les affaires underground.
La culture d'underground. Si ce qui est populaire, c'est d'être underground, là, on a un problème parce qu'on vient de créer...
On vient de casser la
patente. Avec les hipsters, en 2012.
Ah, t'as une date pour ça, oui.
Non, mais je veux dire, pour moi, dans mon calendrier personnel, à moi, les hipsters sont apparus en 2012 et ils sont morts en 2012 aussi. Ils sont retournés dans l'underground. Mais tout d'un coup, c'était devenu populaire d'être hipsters. C'est ce qui était contre le mouvement dans lequel... C'est vraiment fascinant, en fait.
Non, mais les sous-cultures, c'est quelque chose qui est assez particulier.
Oui, tout à fait. Mais tout ça part de Scorsese qui nous amène... Fait que oui, des fois...
C'est une guerre qui ne pourra jamais gagner. C'est
non, mais en même
c'est
temps...
C'est une drôle d'idée, là. Il critique un peu la main qu'il nourrit dans un sens, parce qu'en critiquant ces films-là populaires, il critique un peu les gens qui vont voir les films.
Je pense que c'est pour ça qu'il... Parce que là, dans ce que tu dis, François, dans ce que tu amènes, il y a un petit peu de... diminuer sa position, mais je veux dire, il a un peu diminué l'ampleur de ses propos.
Peut-être un peu expliqué.
Mais il a plus expliqué.
Oui, c'est ça.
Il a plus justifié, puis on comprend un peu plus. C'est moins juste, je lance une phrase incendiaire, puis je m'en vais après ça. T'sais. Il a un petit peu plus expliqué, puis je pense que c'est intéressant, puis... Non, c'est ça, c'est un débat qu'il faut... une discussion, je pense, qui est intéressante à avoir,
Je pense que la question qui est en dessous de ça, c'est pourquoi on va voir des films, puis je pense qu'on pourrait facilement arriver avec une liste au-dessus de 100 raisons pourquoi on va voir des films. C'est-à-dire que des fois, on va voir des films pour se divertir, mais c'est pas tout le temps le cas.
Des fois, il fait trop chaud.
On va profiter de l'air climatisé. mais des fois, c'est pour vivre des émotions, mais pas nécessairement tout le temps. Des fois, on voit des films pour pleurer, mais pas nécessairement tout le temps.
Puis rendu là, si tu fais un film et il n'y a personne qui va le voir, même si c'est le meilleur film au monde, est-ce que tu es si gagnant que ça? Je veux dire, rendu là, dans le sens où, oui, c'est un beau film, mais si tu vas toucher personne avec ça, si tu rejoins personne avec ça, puis il y a juste 5 personnes
pour voir,
pourquoi on fait des films?
C'est la fameuse question.
Mais c'est ça. Est-ce qu'on fait pour toi, pour soi-même, ou est-ce qu'on fait pour que des gens qui aillent le voir? C'est un médium de communication.
Est-ce qu'on le fait pour avancer le cinéma? Et aussi, je pense que beaucoup de réalisateurs justement, qui sont un peu plus dans une sous-culture, vont vouloir justement aller réinventer, aller ailleurs, découvrir. C'est le fun. C'est des colons, dans le sens de coloniser.
C'est des pionniers. Des fricheurs.
Sauf que ce qui est bien, c'est que ça existe, c'est bien. Maintenant, est-ce que tout doit être comme ça? Je crois pas.
Non, c'est vrai,
les gens qui s'inquiètent que le cinéma devienne trop conventionné, toujours pareil, trop recette facile. Moi, je vais vous dire, là, regardez ce qu'il y a sur Netflix, regardez les productions indépendantes. Ouais. Il n'y a jamais eu autant de productions éclectiques sur toutes les plateformes qu'il y en a aujourd'hui.
Moi,
ça
n'a
jamais
même...
été aussi facile de faire des films dans tous les sens. Ouais. Fait que c'est franchement...
Moi, je rajouterais même à ce que tu dis pour ces gens-là, peut-être changer de cinéma. Parce que quand on regarde la programmation d'un cinéma, c'est pas la totalité. Tu regardes ce qui est disponible à la maison du cinéma versus ce qui est disponible au Galaxy, c'est pas la même chose. Mais si tu te plains que tu as juste des films à la recette facile, mais que tu vas juste dans un cinéplex ou dans un truc comme ça...
Faut aller les trouver, ces films-là.
Oui, va dans un cinéma indépendant, la maison du cinéma, le cinéma Beaubien à Montréal, il y en a, c'est juste d'aller le chercher.
Je pense qu'il y a des films pour tout le monde, puis c'est ça qui est de la diversité. C'est comme de dire, le rap doit exister, même si t'aimes pas ça, puis le country doit exister, même si t'aimes pas ça, tu sais. Je veux dire, rendu là, tous les genres, puis tous les types, que ce soit underground ou que ce soit pop, ou que je pense que ça a lieu d'exister. Après ça, c'est quelle place on leur fait dans les médias. Puis quelle place c'est. Mais en même temps, si tu pousses trop quelque chose d'underground, ça revient pop.
Exactement. Moi, voilà. Je pense que la diversité, c'est aussi d'accepter la différence.
On va rester là-dessus. Pareil, mais,
Puis là, on va aller très loin de Marvel avec le film que je vais vous critiquer.
Ben oui, j'ai hâte d'entendre ça. Alors voilà, c'était tout pour les nouvelles. Des nouvelles passionnantes, n'est-ce pas?
Oui.
Voici votre Cinébrunch. C'est le moment où Mélina nous présente le dernier film d'Almodovar.
Oui, donc un film qu'il a réalisé et scénarisé et qui met en vedette notamment Antonio Banderas et Penélope Cruz. Donc, Pedro Almodovar, un réalisateur... Antonio Banderas, c'est sa 8e participation. Penélope, c'est sa 6e. Il aime travailler avec ses acteurs et actrices fétiches. Pour ceux qui ne le connaissent pas tant comme réalisateur, c'est quand même un grand réalisateur qui est maintenant âgé de 70 ans, qui a reçu de nombreuses récompenses dans sa carrière, que ce soit des Oscars, des Golden Globes, des Palmes d'Or, des Césars. Il est connu pour plusieurs grands films, dont notamment Femme au bord de la crise de nerfs, Tout sur ma mère, Parle avec elle, Volver. Exactement. Des films comme ça. Et son 21e film, donc celui qu'il nous présente maintenant, qui est en nomination notamment à Cannes, et ce qu'on peut dire, un film beaucoup plus introspectif. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous lire le résumé. Ça va comme suit. Alors qu'il vit des jours difficiles happés par des douleurs physiques, le réalisateur Salvador Mayo apprend que la Cinémathèque de Madrid a restauré l'un de ses films et qu'il sera présenté bientôt. À cette occasion, il se rend chez l'acteur principal du film, Alberto Crespo, avec qui il s'est disputé il y a 30 ans, pour lui proposer de présenter le film avec lui. Parallèlement à cette réconciliation, Salvador se remémore énormément de souvenirs d'enfance, ses premiers amours, sa mère, tous ces souvenirs qui l'habitent avec l'écriture pour seule thérapie. Donc c'est un film qui parle d'un réalisateur. On va aller écouter la bande-annonce.
Les insomnies.
Si tu n'écris plus et si tu arrêtes les tournages, tu vas faire quoi ?
Vivre, je suppose.
T'as beaucoup trop de temps libre et tu te focalises sur tes douleurs.
Est-ce que tu vois Alberto ?
Je suis contente que tu lui en veuilles plus.
Qu'est-ce que tu fais là ? Il faut que je te parle. La Cinémathèque a restauré sa voix. C'est pour ça que ça me paraît juste qu'on te présente ensemble à la Cinémathèque.
Je t'en connais plus, Salvador.
Asco !
T'as pas été un bon fils, mon garçon.
Ah bon ?
Non.
J'ai pas envie d'aller à l'école, je veux rester à la maison.
Il va me rendre dingue, ce gosse.
L'amour.
Toi, t'as
situation.
Je te laisserai pas m'humilier à nouveau. Ça fait tellement longtemps, mon salaud, viens ici. Et chaque film que tu faisais était un véritable événement dans ma vie.
Je suis en ligne avec Salvador Mali.
Voilà.
Oui, donc la bande-annonce du film que je viens de voir, donc de Pedro Almodovar. Donc c'est un peu ça, je disais, c'est un film qui est clairement introspectif. Il l'a dit lui-même, on peut considérer ça comme une autofiction. Il s'inspire beaucoup de sa vie. Donc, on voit un réalisateur à peu près âgé de 70 ans qui se dit trop vieux pour tourner, avec cette espèce de fatigue un peu de la vie, de plus trop avoir de projet, plus de motivation. Donc, il y a beaucoup de douleurs physiques et à travers ça, bon, comme
on dit,
il est magané, il y a de la difficulté, il n'a plus envie d'écrire. Et là, on le voit un peu naviguer à travers ça et avec certains flashbacks, retours en arrière, où on voit son enfance, sa jeune vie adulte et un peu plus tard. Donc pour ça, c'est super intéressant parce qu'on sent vraiment qu'on a un accès au réalisateur. On a vraiment l'impression... Et moi, j'ai vu le film et j'ai lu sur le film après, comme on le fait souvent à Cinébrunch. Et en sortant du film, je me suis dit, bon, clairement, il y a quelque chose dans ce film-là qui est... doit être un peu introspectif, qui doit être inspiré de sa vie parce que ça va tellement le rejoindre. On a un réalisateur connu, tout ça. Donc pour ça, puis quand j'ai appris ça, je trouvais ça fascinant. J'ai pas tant envie de parler tant du film parce que je pense que c'est vraiment un film à voir pour ceux qui aiment le réalisateur, pour ceux qui aiment le cinéma espagnol, pour ceux qui aiment un peu, on parlait des films de Marvel tantôt, pour ceux qui aiment aller dans quelque chose de différent. J'ai beaucoup apprécié le film. C'est sûr que je suis pas une très grande... Je ne suis pas quelqu'un qui connaît énormément ce qu'il a fait dans le passé, donc il semblerait qu'il y ait beaucoup de références à ses œuvres passées dans ses propres films. Donc clairement, je ne les ai pas décodées. Mais ce que j'ai vu, en fait, m'a beaucoup plu et ça m'a clairement donné envie aussi de voir un peu
de voir
sa
les
filmographie,
autres films.
Oui, des choses comme ça.
Quand même un film avec beaucoup de dialogues, j'ai l'impression, un humour un peu noir, des...
Oui, mais c'était vraiment intéressant de voir de voir un peu la psychologie de cet homme-là ou de voir un peu les difficultés qu'il rencontrait à ce moment-là. Puis je pense que c'est des difficultés auxquelles on peut
s'identifier.
Oui, exactement.
Oui, deux morceaux de robot pour Jim.
Oui. Non, parce que regardez, moi, j'ai pas 70 ans. Je vis peut-être pas cette espèce de fatigue de vivre ou de démotivation.
Mais tu la ressentais quand même.
Mais je la ressentais vraiment bien. Wow. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis c'est ça. C'est quand même, c'est divertissant comme film. Donc moi, je le conseille. J'y donne un beau 8 sur 10.
Quand même.
D'après moi, ça va être disponible encore pour un certain temps.
Ouais.
Est-ce qu'il y a une tranche d'âge de gens qui tu...
Ah non, définitivement pas. Non. Je pense que peut-être ça aurait été intéressant d'avoir quelqu'un peut-être qui est plus dans cette tranche d'âge-là pour voir à quel point il réussissait à vraiment bien
s'identifier,
à quel point il réussissait à bien représenter un peu cet état-là, cette espèce de fatigue-là, cette espèce de démotivation qui finalement lui revient vers à un moment donné, puisqu'il a fait un film, hein, on s'entend, il y a un film qui est sorti de ça.
Oui.
Fait que ça, c'est très intéressant. Donc, mais non, pas de tranche d'âge. Je pense que si ça vous intéresse, allez-y. Honnêtement, moi, j'ai passé un très beau moment. Donc,
Tu l'as vu en espagnol?
Je l'ai vu en espagnol, sous-titré en français. Les deux sont disponibles à la Maison du cinéma. Bon, on peut parler des accents espagnols un peu si vous voulez. Moi, je n'aime pas beaucoup comment ils prononcent leur truc, mais bon, ça c'est moi, ça me fatiguait. Bon,
c'est origines sud-américaines.
C'est ça
qui se passe. Bon,
mais
excellent.
Mais non, à voir en version originale si ça vous plaît. Là, c'est un très beau film.
Bon. Mais merci beaucoup, Mélina.
Merci.
On est avec vous pour vous parler de cinéma
à notre
émission. Et cette semaine, on a la chance. J'ai la chance, en tout cas, de critiquer un nouveau film de Terminator. Et François a eu la chance d'aller voir un film un peu particulier avec Jean Dujardin, dont tu vas nous parler dans quelques minutes, hein, parce que je vais faire assez court avec ma critique
donc,
de Terminator.
Oui, donc c'est pour ça, les gens qui veulent écouter la critique de Le Dain, ça s'en vient.
Une dizaine de minutes. Donc, voilà. Donc, oui, je vais vous parler de Terminator. Terminator, Sombre Destin ou Dark Fate en anglais. Film d'action et de science-fiction américain réalisé par Tim Miller, le réalisateur de Deathpool, si vous avez vu le film.
Le film si on ne l'a pas vu, c'est aussi le réalisateur.
Hein? Oui, oui, c'est ça. C'est okay. vrai que ça change absolument Parfait. Rien. Merci oui. de...
Pas trop.
Merci de rallonger ma critique. Donc, James Cameron et David Ellison ont produit ce film, Terminator. Et le film met en vedette Natalia Ray, Linda Hamilton, qui est de retour dans ce film de Terminator, Arnold Schwarzenegger, Gabrielle Luna et Mackenzie Davis, qui jouait la hackeuse dans la série Halt and Catch Fire, mais aussi un petit rôle dans le dernier Blade Runner de Denis Villeneuve et dans Seul sur Mars aussi de Ridley Scott. On parlait de Ridley Scott tout à l'heure. Mm-hmm. Donc voilà. J'aime beaucoup cette actrice-là, mais je vous avoue que dans ce film-là, j'ai un petit peu eu l'impression que son style détonnait beaucoup avec les autres acteurs. Donc l'actrice Mackenzie Davis. C'est quoi l'histoire? Ben, premièrement, les événements de ce film-là, parce qu'il y a eu beaucoup de Terminator, les événements de ce film-là se passent pendant plusieurs années. En fait, ça passe plusieurs années après les événements de Terminator 2. Okay. Si vous avez vu les deux premiers films de la série Terminator, donc Terminator et Terminator 2, vous ne serez pas du tout dépaysé parce qu'on peut vraiment mettre ce film-là comme étant le nouveau troisième film de la saga.
Qu'est-ce que tu veux dire, le nouveau troisième film? Dans le sens où... Il y a déjà un troisième film?
Oui, il y a trois autres films, en fait. Il y a quatre autres films qui existent, mais là, il y a toutes sortes de canons différents dans cette histoire-là. C'est... honnêtement, assez obscur. Wow. Il y a des ce qu'on appelle en anglais des movie watch orders qui sont totalement différents. Si vous cherchez pour dans quel ordre voir les films de la série, vous allez avoir un paquet de gens qui se battent pour avoir le dernier mot. Il y a des gens qui disent non, tel film ne fait pas partie du canon de James Cameron. D'autres vont dire non, ce film-là en fait il devrait pas être dans la saga. Bon, il y a un paquet d'affaires. Oh tout God. Ça pour dire que sans trop m'évader du sujet principal, tout ça pour dire que on pourrait écouter le premier, le deuxième film, et par la suite, ce film-ci qui est au cinéma en ce moment, et on ne manquerait rien, ça se tiendrait autrement dit. Okay. Maintenant, ça fait fi d'un paquet d'affaires qui se passent dans l'univers. L'univers étendu, je vous en parlais tout à l'heure, mais c'est assez vaste. Donc,
est-ce que tu dois nécessairement écouter les deux premiers,
excellente Jen? Question, François, tu me devances.
Écoute.
Alors oui, en fait... en fait, c'est pas une obligation. Moi, je recommande fortement au moins d'écouter le deuxième opus, okay. qui est d'ailleurs sur Netflix en ce moment.
Ah ouais, même plus le deuxième que le premier?
Oui, parce que... Ah oui, définitivement.
Ah ouais.
C'est beaucoup plus dans ce... En fait, le premier est très mal vieilli à mon goût, et le deuxième, à mon sens, est le meilleur aussi. Et le deuxième amène un peu vers ce qui va se passer là. Okay. Donc, à mon sens, c'est le deuxième et le film qui doit être vu.
C'est la porte d'entrée.
Absolument, la porte d'entrée. Alors, ben c'est ça, en fait. j'ai jamais pu finir mes idées.
Oui, ben donc, écoute, il y a tellement de choses à dire sur Terminator.
Ça se positionne vraiment comme le nouveau troisième film. Mm-hmm. Juste pour vous rappeler, les trois premiers films d'origine avaient été écrits, en fait, par James Cameron, et les deux premiers avaient été écrits et réalisés par James Cameron. Dans ce cas-ci, il n'est que producteur, mais il faut comprendre que James Cameron n'est jamais très loin quand on parle de Terminator.
Ouais.
Alors, avant d'aller écouter la bande-annonce, un très court résumé synopsis du film. Alors, l'histoire tourne autour d'une jeune femme mexicaine qui s'appelle Dani Ramos, qui vit paisiblement au Mexique avec sa famille jusqu'au jour où un Terminator se met à sa poursuite. Elle est sauvée par un hybride, qui est un humain augmenté, et ensemble, ils rencontrent Sarah Connor, qui est encore là un personnage culte dans la série des Terminators. Sarah Connor, qui, depuis des dizaines d'années, surveille les Terminators et tente de les massacrer. Donc voilà, avant d'expliquer un peu plus c'est quoi ce concept-là, on va écouter la bande-annonce.
Je m'appelle Sarah Connor. Je n'en avais jamais vu une comme toi avant. Tu es presque humaine.
Je suis humaine. Pourquoi vous la protégez?
Parce que j'étais elle.
Ah, excusez-moi, pendant la bande-annonce, j'étais dans une discussion houleuse avec mes collègues ici.
Parce que moi et François, on a avoué à Jim qu'on n'avait jamais vu les Terminators.
Mais c'est ça, on ne voulait pas avouer ça en ondes,
c'est trop tard. On m'a demandé ce qu'était un Terminator.
En fait, j'ai posé la question à Jim, mais qu'est-ce qu'un Terminator?
Alors, pour les besoins de la cause, je pense que je vais prendre quelques temps pour expliquer ce qu'est un Terminator. Je pense que ça va aider peut-être mes collègues et peut-être certains auditeurs.
Oui, qui n'auraient pas vu.
Voilà. De qu'est-ce que c'est mm-hmm. autrement dit.
Très belle question.
Alors,
parce que tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était.
Exactement. Voilà. Oh mon Dieu, on a de la suite des idées ici. Donc, en fait, tout ce que je veux dire, c'est que les Terminators sont des robots, des androïdes, des cyborgs, enfin, appelez ça comme vous voulez, plutôt des cyborgs, qui viennent du futur pour assassiner un personnage humain, une personne humaine, qui va soit directement influencer le cours des choses, donc à l'encontre des robots, parce qu'on dans le futur, il y a une espèce de guerre entre les robots et les humains, au même titre qu'on a dans la Matrice, cette espèce d'intelligence artificielle-là qui a pris le contrôle de la vie. On a une résistance humaine, même principe dans ce cas-ci. Mm-hmm. Alors, dans le futur, il y a des personnages qui vont aider à gagner la guerre contre les robots. Ben, ces personnages-là, soit leurs parents, soit eux-mêmes, quand ils étaient plus jeunes, ben, vont être... On va tenter de les assassiner en revenant dans le passé à une époque où c'était facile de les trouver. Mm. C'est ça le concept. Un Terminator, c'est un cyborg qui est formé comme un assassin incroyable. C'est des créatures qui ont énormément de force physique, mais aussi de capacité au niveau technologique, dans le sens où on a, par exemple, la possibilité de défaire une partie de leur corps ou de se reformer à côté. C'est très, très avancé comme technologie.
Mais tu viens de te tuer avant que tu aies le temps de faire quelque chose.
Exactement. Ouais. Ou on vient de tuer tes parents avant, ou des choses comme
avant
ça.
Avant que tu aies le temps d'être conçu.
Exactement. Donc, c'est ça le concept. Mais... À chaque fois qu'un Terminator vient dans le passé, à chaque fois dans les films, là, je ne peux pas en dire plus de l'univers en tant que tel, je ne pense pas qu'il y ait une mécanique qui fait que ça fait ça automatiquement, je pense que ça donne dans tous les films que c'est ça qui se passe, mais il y a aussi quelqu'un ou un gentil Terminator ou une personne ou un hybride
qui
va
réussir aussi à faire
tourner. Normalement, non, mais dans certains cas, il y en a qui ont été hackés, autrement dit, pour devenir des bons. Okay. C'est le cas de Terminator 2. Et maintenant, ce Terminator-là, ou cet humain-là, ou cet hybride-là qui revient dans le passé, lui ou elle a pour but de sauver l'individu qui est pourchassé par un Terminator.
C'est donc, de là le hybride que tu parlais tantôt qui allait sauver la madame.
Et là, il y a donc un combat entre ces deux personnes du futur-là dans le passé. Un essaie de protéger la personne en question, le target, la cible, et l'autre essaie de l'assassiner. Alors, tout ça est extrêmement violent et tout ça, c'est un film d'action là, dans le sens d'action. Hein?
Oui, mais on entendait pendant la bande-annonce aussi beaucoup d'action là, du pouf, pouf, paf, chitoup.
Oui, puis je dirais que la bande-annonce ne révèle pas tant que ça, honnêtement, dans ce film-là. Ça brasse. Là. Ça brasse.
Ça révèle qu'il y a de l'action, en fait.
Mm. C'est ça. Merci, François, pour cette clarification.
Mais c'est important.
D'usage. Oui, c'est très important. Donc, vous n'allez pas voir ça pour vous détendre. Donc, au niveau du scénario maintenant, parce qu'on a un rythme qui est quand même assez bon, à part une chute étrange en plein milieu du film qui vient vraiment briser l'harmonie.
Genre, il y a un Terminator qui tombe?
Non, on a une chute scénaristique.
Bien joué, Mélina, bien joué.
Merci.
On nous met une espèce de pause qui vient un peu briser l'ambiance. Au niveau scénario, c'est quand même pas si mal. On reconnaît des éléments qui vont vouloir faire plaisir à la fois aux fans des premiers films, ce qui est une bonne chose, et en même temps, pas trop se faire critiquer par des visions peut-être un peu plus modernes du cinéma ou de la société. Par exemple, on a un film qui est porté presque entièrement par une distribution féminine, ou en tout cas principalement féminine, ce qui est assez nouveau pour la franchise, mais qui est de plus en plus courant dans le genre aussi. On va prendre un film, puis une des suites, soudainement, ben là, on va avoir des personnages féminins à l'avant-plan. Mais dans ce cas-ci, on n'a pas un, pas deux, mais bien trois personnages féminins à l'avant-plan. Et seulement un personnage masculin à l'avant-plan. Donc, on est dans une transformation du marché du milieu. Ouais. Ça s'applique à ce film-là également. Maintenant, il y a des éléments qui marchent un peu moins, par contre. Avec ça, moi, je vais être honnête, beaucoup d'ostinage entre les personnages, des choses comme ça qui, à mon sens, sont pas vraiment d'utilité. On sent que c'est là pour justement créer une espèce de dynamique un peu moins masculine, peut-être, dans le film. Et moi, je trouve que ça fait cliché un peu. Je pense qu'on n'avait pas besoin de faire ça du tout. Mais bon, on le fait, puis ça donne des dialogues un petit peu plus faibles, des choses qui sont pas si utiles que ça. Maintenant, le vrai problème au niveau du film, si vous voulez mon avis, c'est au niveau des personnages, en fait. Les personnages ont comme pas la même perception du niveau d'urgence. Je sais pas comment expliquer ça, là, mais on a des personnages beaucoup plus alarmistes que d'autres. La communication ne prend pas vraiment ça en considération. On a un peu l'impression qu'on sait jamais vraiment qui est trop sérieux, puis qui l'est passé dans cette histoire-là. Puis l'autre affaire, c'est qu'on a un personnage à l'avant-plan qui a un rôle qui aurait pu être beaucoup plus utilisé, et on a des personnages qui sont à l'arrière-plan, qui sont là pour faire plaisir, puis ces personnages-là ont un petit peu trop de place, à mon sens, ce qui fait en sorte que ça donne l'impression que personne ne fait rien de précis, là, ou personne ne fait rien de complet. On est dans cette espèce de zone-là où tout le monde se partage là, un huitième du film, puis ça donne, à mon sens, pas une très grande réussite. Mais si on oublie tout ça, c'est pas si mal. Moi, j'ai quand même préféré le deuxième opus, le Terminator 2, tant qu'à moi, qui était le top. Mais en tout cas, je vous donne quand même un 7,5 sur 10 au film Terminator Sombre Destin. Je recommande d'aller voir si vous avez aimé et au moins vu le deuxième épisode.
Oui, mais donc, ça, parce que tu as dit qu'il y avait quand même des liens avec les anciens Terminator, là, mais les anciens films là, de Terminator. Mais
oui, ben oui, c'est la suite.
Mais est-ce que c'est vraiment... est-ce que tu penses que le public cible, c'est les jeunes qui aiment les films d'action?
Je pense que les publics cibles, c'est les gens qui ont vu les autres Terminator. Je pense que quelqu'un qui va aller voir ce film-là, sans avoir vu les premiers films, vont trouver ça très faible comme scénario. Parce que le scénario s'assoit beaucoup sur les films précédents. Okay. Le scénario est
qu'on joue
dans
beaucoup
ce concept-là.
Sur la nostalgie du Terminator ou on... Tu sais, dans le sens, quelqu'un qui l'aurait vu, mettons, une semaine avant d'aller voir le film. Là.
Comme moi, mettons.
Par exemple,
j'ai pris le temps de regarder les deux premiers films avant d'aller
donc
le voir.
Donc, tu n'avais pas la nostalgie parce que tu ne les avais pas vus avant?
Oui, je les avais déjà vus.
Tu les avais déjà vus. Fait que tu as quand même la partie nostalgie. Mais quelqu'un qui l'aurait vu, par exemple, jamais de sa vie, qui l'aurait juste vu une semaine avant, puis qui n'aurait pas le côté nostalgie, est-ce que tu penses qu'il comprend, là? Il comprend le scénario?
Je pense que quelqu'un qui va avoir vu le premier film va peut-être pas le goût de voir le deuxième, mais si quelqu'un voit le deuxième, il va avoir envie de voir celui-là. Ah oui, je suis certain. Je pense pas que personne va finir d'écouter Terminator 2 puis dire « Ouais, ce film-là était plate ». Je pense que, outre le côté vieillot du film, il y a définitivement un bon rythme, une bonne action, un bon humour dans le film, le deuxième opus. Dans ce film-ci, on ramène vraiment cette ambiance-là. On réussit à recréer cette ambiance-là. Tout ça avec l'espèce d'urgence puis de fuite perpétuelle parce que le méchant nous poursuit puis on doit fuir par tous les moyens. Maintenant, là, on a mis ça dans une espèce de climat frontalier, je sais pas si je peux dire ça comme ça. On se promène un peu entre le Mexique et les États-Unis avec toute la complexité qui va avec ça.
On l'a réactualisé un petit peu aussi dans le sens où est-ce que c'est un petit peu comme si on avait fait le Terminator 2 mais aujourd'hui, tu sais.
Ouais, je pense que oui. C'est un peu comme si on avait fait le Terminator 2 aujourd'hui, effectivement. Effectivement, puis tout ça est une volonté peut-être aussi de clore un peu la situation. Et rapidement, là, je sais que le temps file et que François a très hâte de commencer sa critique.
Mais oui, je sais, mais moi j'aime ça les courtes critiques. Moi,
je comprends, je savais dire que ça serait rapide. Hein?
Oui, je sais.
Mais dans le fond, juste vous dire, la saga là, Terminator, il y a un culte autour de ça. Ça va beaucoup plus loin que juste les films. Et que surtout que juste ces films-là, il y a 6 films. Donc, à la base, en plus de celui-ci. Là. Et, ben, en fait, non, avec celui-ci ou en plus, je ne sais plus. J'ai arrêté de compter. Mais il y a aussi une série qui s'appelle Sarah Connor's Chronicles. Et il y a 2 web-séries, sans parler des jeux vidéo, des romans, des BD. Il y a énormément de matériel puis de contenu, puis des jeux vidéo qui datent là, de très longtemps. Donc, tout ça fait que il y a des vrais fans de ces films-là, de cette saga-là. Et il faut comprendre qu'il se passe des choses à la fin des films ou pendant les films qui influencent le futur. Et le fait d'influencer le futur fait que ça annule certaines choses au niveau temporel. Fait que tout ça est très intéressant, un peu malhabile à mon goût.
Mais ça doit créer des débats de dire ça, c'est plus probable finalement.
Ben, c'est un peu comme Star Wars où il y a des sons dans l'espace. Tu sais, je pense que si tu acceptes le côté opéra de cette saga-là, tu vas avoir beaucoup de plaisir avec les références futures passées parce qu'il y a quasiment de la consanguinité dans cette affaire-là. C'est particulièrement étonnant de quelle façon les choses se tournent entre elles-mêmes.
Okay.
Maintenant, ce que ça veut dire aussi, c'est que les conséquences d'un film peuvent faire en sorte qu'un autre film n'existera pas du tout.
C'est pour ça que tu parles juste du 1 et du 2.
Ben, je pense que si vous écoutez juste le 1 et le 2 et ce film-là, pour vous, ça va être une histoire complète. Si vous rentrez dans les autres films, là, vous allez vous perdre dans un autre monde, un autre patente, où d'autres personnages qu'on connaît déjà du deuxième et même du premier vont avoir un impact, mais un impact dans une autre réalité, si vous voulez. Donc, il y a des différentes réalités dans cette histoire-là. Mais c'est tout pour ma critique. Ça va être le temps de François tout de suite après cette petite jingle. Et c'est pas parce que François m'a fait parler le double du temps voulu que ce ne sera pas son tour de se laisser nous parler de son film Le Dain.
Oui.
Ah, sacré François.
Le Dain.
Juste Le Dain.
Oui. Non pas la Dain. Deux.
Oui. Aladdin.
Aladdin.
Mode. Oh là là là.
On est fatigué, hein?
Oui, tout à fait.
Bon, alors Le Dain,
un film de Quentin Dupieux.
Ah, je veux pas te dire Tarantino.
Mais c'est ça l'affaire, c'est parce qu'il s'appelle Quentin
Dupieux.
Dupieux. Mais il y a un petit peu de Quentin Dupieux dans ce film-là.
Sacré Quentin Dupieux.
Oui, non, mais il y a un petit peu de Quentin Tarantino un petit peu là-dedans. Je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard dans ma critique. Que je vous tease un petit peu. Alors, la distribution, Jean Dujardin est vraiment là pendant une majeure partie du film.
Ça a l'air un film
c'est
très long, mais court.
Très long et court. J'aime ça. Et Adèle Hanel, aussi, qu'on a parlé en tout début d'émission. En fait, c'est les deux acteurs qu'on voit le plus pendant tout le film.
C'est quasiment un duo, là, dans le fond.
Presque, oui. Okay. Les autres, on les voit un petit peu, mais à peine. Donc, je pense qu'on va vraiment se concentrer sur ces Jean et Adèle. Donc, c'est pas mal eux autres qui font le film. Alors, je pense que... Le synopsis qu'ils ont essayé de pousser le plus en avant, c'est un synopsis d'une ligne.
Oui.
Et je vais vous prendre le temps de le lire quand même. Écoute, rendu là, je vais pas le mettre dans mes mots. C'est une phrase.
On est tout oui.
Oui, donc, Georges, 44 ans, et son blouson, 100% d'un, ont un projet. Alors ça, c'est le synopsis qu'ils ont vraiment essayé de pousser. Après ça, bon, il y a des gens qui ont essayé de créer des synopsis un petit peu plus longs.
Oui.
Mais comme c'est un film assez court, hein, c'est un film de 1h17, comme dirait mon père, c'est un Disney, ça. C'est dans les longueurs de films.
Même un peu plus court, parfois.
Oui, même, effectivement. Donc c'est un film assez court, quand même, et le synopsis va avec. C'est assez magique.
Oui.
Qu'est-ce qu'il fait avec son blouson?
Écoute, moi, je pense qu'on va aller écouter la bande-annonce avant d'en dire plus.
Vous parlez de mon blouson?
Pourquoi on parlerait de ton blouson?
Vous voyez bien que c'est pas un vêtement banal.
Alors, c'était donc la bande-annonce du film Le Dain.
Le Dain, tout à fait. Alors, un film, on s'en parlait, dans le fond, hors micro. Encore une fois, on parle tellement hors micro, c'est magique. C'est celui qui a fait Au Poste, celui qui a réalisé Au Poste, qui est le même...
Oui, film d'une absurdité incommensurable, mais très bon.
Oui, bien, en fait, souvent, les films de M. Dupieux, c'est des films qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
Hein? Voilà.
C'est des films qui divisent, c'est des films qui vont ailleurs. Scorsese aimerait sûrement ça. C'est des films qui vont...
détestait ça.
Oui, mais au moins, c'est pas du Marvel qui dirait, j'imagine.
Ça, c'est clairement pas du Marvel, oui.
Non, on est ailleurs. C'est un réalisateur qui était à la base Monsieur Oizo. C'était un quelqu'un qui faisait la musique.
Un chanteur.
Oui, ben un genre de DJ, je pense, de ce que même j'ai pu comprendre. Là. Il faisait de la musique. Donc, on peut comprendre dans ces films-là, la musique est vraiment importante. Uh-huh. Et pour vrai, je trouve ça intéressant. Puis il y a des scènes là-dedans que j'ai parlé un petit peu de Quentin Tarantino. Il y a du sang, il y a de l'humour un peu, je trouve, à la Tarantino. Il y a des gens aussi qui ont trouvé qu'il y avait certains liens à faire avec la musique aussi qui est très présente dans ce film-là. Un petit peu à la Quentin Tarantino. Mm-hmm. Je pense qu'il y a des influences. Il y a certains points dans ce film-là qui n'est pas pantoute Tarantino, d'autres qui est proche d'un Tarantino. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'il y a le même prénom. Oui. Puis, il y en a beaucoup qui l'ont soulevé. Donc, je trouvais ça intéressant de le soulever aussi. C'est un film où tu regardes des scènes puis tu dis, si tu ne mets pas cette trame-là musicale dessus, tu n'as pas le côté... parce qu'on essaie d'aller dans... ben, c'est comique, c'est un film qui est drôle.
Oui, oui.
Mais on essaie d'aller dans des côtés pas qui font peur, mais tu sais, il y a quand même du sang, il y a des gens qui meurent un peu, il y a des affaires... bon, c'est pas nécessairement la joie, fait qu'il y a juste des petits... Tu sais, qui peuvent venir rajouter quelque chose à une scène qui était pourtant si banale que tu pourrais regarder, qui fait absolument rien. Donc, en fait, le but de ça, je vous raconte rapidement un petit peu c'est quoi l'histoire de ça. En fait, c'est Jean Dujardin, son personnage, qui va acheter un blouson 100% d'un. Et là, il l'achète vraiment cher, là, genre quelque chose genre 7 500 $, je sais pas quoi. C'est une absurdité. Et là, il va acheter ça. Et à partir de ce moment-là, écoute, le blouson devient un personnage. En fait, dans les personnages, j'aurais pu marquer le blouson.
Okay.
Le blouson devient un personnage et Jean Dujardin fait la voix du blouson aussi. Et c'est magique. Moi, Jean Dujardin, il me fait plier en deux. J'adore les projets dans lesquels il est. Et là, il est là, puis là, il fait les voix. Et on le voit, là. Tu sais, pour vrai, je suis pas certain que dans tout le film, il fait les voix du blouson. Ça n'a pas été rajouté, là, tu sais.
Ah ouais.
Il se met une petite voix un peu plus grave. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Puis, puis là, ça, c'est le blouson qui parle. Puis là, c'est, non, mais...
C'est tellement absurde.
Il y a comme deux personnages en un. Et c'est souvent lui, Jean Dujardin, seul avec lui-même, presque, et le blouson. Donc, il y a vraiment des belles scènes là-dedans, vraiment le fun. Et Jean Dujardin est magique. Et grâce à ça... Je sais que mon frère, quand j'avais parlé du Joker, puis j'avais dit que c'était un film d'acteur, puis que c'était l'acteur qui chantait, il était comme « Ouais, mais le récent du film était bon aussi, le scénario était bon. » Oui. Et là, donc j'ai pensé à lui quand j'ai dit « Man, c'est un film d'acteur aussi. » Oui, le scénario est bon, mais je veux dire, si Jean Dujardin n'est pas là, c'est vraiment difficile
de s'imaginer quelqu'un d'autre.
Ben, dans le sens où c'est facile. Si tu mets n'importe quel autre acteur, il y a des chances que ce film-là marche pas, même si le scénario est bon.
Je pense que Dujardin est un acteur qui est capable de jouer beaucoup avec les silences, qui est capable de jouer beaucoup avec les malaises.
Mais c'est ça ce qu'il est capable de faire.
Et Benoît Poelvoorde aussi, dans le film Au Poste, a la même capacité.
Ouais.
Et tu vois, c'est drôle, je pense que les deux acteurs sont interchangeables dans des rôles comme ça.
Ouais, ouais,
peut-être pas dans les rôles un peu plus...
Non, mais c'est vrai, il y a quelque chose que...
Il y a quelque chose, puis ça m'étonne pas, puis tu vois, je l'imagine, puis en ayant vu la bande-annonce aussi, qui garde son sérieux dans un dialogue complètement inutile, complètement...
Oui. Ah, tout à fait.
Puis qui est exagérément sérieux pour rien.
Ouais, ouais, ouais.
Mais en tout cas, moi, ça donne vraiment envie d'aller voir ce film-là.
Et c'est vraiment intéressant. Puis là, il part. Et le projet, en fait, écoute, je veux pas... Ben, je vais en parler un petit peu. Le projet, c'est qu'il veut être le seul blouson dans le monde. La seule personne à porter un blouson. Donc là, ça devient assez chaotique.
Un blouson
tout court. Wow. Alors là,
c'est l'intrigue, là. Ça, c'est la...
Ben, un petit peu, mais écoute, c'est la pointe de l'iceberg.
Qui va tuer, peut-être.
C'est la pointe de l'iceberg, Jim. C'est c'est un film magique. Et, je sais qu'on a parlé de quand on a parlé les fleurs oubliées, on a parlé de l'absurdité. Et là, je regardais ça, j'étais comme, c'est absurde, mais on n'est pas pantoute dans le même absurde que ce qu'on disait que les fleurs oubliées, c'était absurde. On n'est pas pantoute là. Et c'est un film assez lent et on prend temps de vivre ces scènes-là.
Aïe, aïe, aïe.
C'est un film différent, qui est le fun, qui vaut le détour. Écoute, moi, j'y donne un 8 sur 10 parce que ces films-là qui vont ailleurs, des fois, tu je sais qu'ils vont pas plaire à tout le monde. Puis des fois, quand tu mets un 10 sur 10, ça veut rien dire rendu là. T'sais. Je veux dire, c'est un film... qui vaut la peine d'être vu. Et je trouve ça triste parce que quand j'étais allé le voir, j'étais le seul dans la salle.
Ah non, t'es sérieux?
J'étais le seul dans la salle. Même les gens du cinéma sont venus voir pour voir est-ce qu'on arrête la projection. Oh, ouais. C'est quelqu'un...
Ah, c'est dommage. Puis c'est drôle. Moi aussi, c'est pareil. J'étais tout seul dans la salle quand j'étais allé voir Au Poste.
Ah, mais c'est pense ça. Bien, puis c'est triste parce que je me suis dit, bon, là, Jean Dujardin est plus connu avec OS 76, Brise de Nice. C'est quelqu'un qui est une figure un petit peu plus connue au Québec. Donc, peut-être que ça va justement être capable d'aller chercher plus de gens. Puis la bande-annonce était assez drôle. Moi, dès que j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu Jean Dujardin. Déjà, ça m'a vendu un peu. J'avais le goût d'aller le voir.
Mais est drôle, mais au deuxième degré.
Oui.
Si tu la regardes juste comme divertissement sans te poser de questions, tu vas certainement pas trouver ça intéressant.
Oui, exactement. Donc, c'est un film que je recommande. Il faut aller voir ça. Ouais. Mais c'est pas pour tout le monde. Il y a du sang. Faut faire avec. Il y a un petit peu de violence, mais waouh, que si tu rentres dedans, tu t'envoies
quelque part. Je suis persuadé, je vais définitivement aller voir ce film-là. Puis, sincèrement, si tu as une chance, François, de voir le film au poste, je sais pas si ça se trouve.
Faut que je mette ça. Écoute, c'est des films qui sont des fois difficiles à trouver, effectivement.
Film court aussi, même principe. Puis moi, Benoît Poulvord, je trippe sur cet acteur-là. Sans blague, c'est un must. Puis je pense que ça entre exactement dans ce que tu viens de décrire comme film. Puis moi, j'ai envie de voir les deux, encore une fois.
Donc, écoute, ça me donne le goût d'aller le revoir même. Là,
ben oui, non, c'est ça. Puis un film d'une heure comme ça. Là.
Ben, ça se prend bien.
Hein, entre deux films, hein, François?
Exactement.
Excellent. Merci beaucoup, François. Merci, Mélina. Merci à tous nos auditeurs d'avoir été là encore une fois cette semaine à Cinébrunch. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre Cinébrunch le samedi 11h et diffusion le mardi à midi. Sinon, sur notre site web, cinébrunch.com. À la semaine prochaine, tout le monde.
À la semaine prochaine.